Je dis un mot ? Voilà. Ça marche. Ben, bonjour à toutes et tous. Et bienvenue au Tambour, la salle de spectacle de l'Université Rennes 2, pour cette journée d'accélération du PEPR ICAR en prise avec le volet Praxis. Je suis Baptiste Brun, je suis le vice-président culture et documentation de l'Université Rennes 2. Et donc c'est à ce titre aussi que je vous souhaite le bienvenue ici, ainsi que Jérôme Hénault, le vice-président recherche, qui malheureusement a un COS et ne peut pas rester avec nous. Mais on est vraiment ravis de vous accueillir. Eupraxie, qu'est-ce à dire ? Une figure déifiée grecque, Eupraxie qui personnifie et symbolise la question du bien-être. Et plus avant, la question sans doute du dialogue et de l'accord, l'affirmation qu'au-delà de la distinction ou de la ségrégation et toute autre forme exclusive, il existe des espaces de partage, de négociation ou d'émulation qui engagent à faire, expérimenter, créer ensemble. Et à Rennes 2, bien sûr, ça nous excite. Au-delà de la bonne conduite ou de la bonne réputation qui est associée à la figure de la mythologie grecque, Eupraxie s'institue, si je l'ai bien compris, comme une figure de l'écoute et, ce faisant, de l'horizon des possibles dans le champ démocratique. C'est une figure symbolique qui, si j'en crois le programme ICAR, pense la question de pratiques vertueuses, mais peut-être que ce n'est pas la vertu qu'il faut convoquer ici, sinon des bonnes pratiques dans le champ des interactions entre le domaine de la recherche en SHS et tout ce qui relève des étrangement dénommés ICC, les industries culturelles et créatives, artistes et créateurs en tête de pont, et toutes celles et ceux qui les épaulent, les accompagnent pour faire œuvre commune. À l'évidence, l'Université Rennes 2 ne pouvait que s'aligner sur la proposition de Sami Zegnani, et on le remercie, relative à ces interactions et synergies qui existent entre quartiers populaires et créations artistiques. Rennes 2 est une université en prise directe avec l'articulation entre classe populaire et enseignement supérieur et recherche, du fait même de sa sociologie. Et par définition, dans une perspective qui ne peut renier ni Foucault ni Bourdieu, le dispositif et la distinction, Rennes 2, université de SHS, université qui place la question de l'égalité au cœur de ses politiques, Rennes 2 donc ne pouvait faire la sourde oreille à ce que porte ICAR et en particulier la proposition de tenir cette journée d'accélération au Tambour, qui est le cœur battant de nos politiques culturelles. Bien sûr, comment ne pas souscrire à une évidence manifeste ? Les formes culturelles propres aux quartiers populaires, longtemps absentes et marginalisées, ont aujourd'hui une place incontournable qu'il s'agit de manifester toujours plus avant. Et le tambour fait partie, je dirais, de ces manifestations-là. Et plus avant, ce sont les synergies qui existent entre ces territoires et les campus universitaires en général qui méritent aujourd'hui un bref focus, du moins dans le cadre de mon intervention, en écho notamment à la Convention nationale Messerie Ministère de la Culture, Campus Territoire de Culture, qui a été publiée il y a peu. Si la journée d'accélération Eupraxie engage un dialogue montant en généralité sur ces interactions qui existent entre les créativités populaires, et j'insiste sur ce pluriel, et leur diffusion notamment, je me permets de faire une insiste sur ce qui se joue à l'échelle de Rennes 2, précisément, concernant ces synergies entre campus et territoire, le territoire qui l'accueille et détermine aussi depuis sa création ce qu'est Rennes 2 il y a un demi-siècle, savoir le quartier Villejean. Et je voudrais à ce titre saluer le travail du service culturel qui, dans le cadre d'une convention de jumelage entre Rennes 2 et le quartier, avance main dans la main avec les acteurs et les actrices de Villejean pour faire du campus une part intégrante du quartier et du quartier, en quelque sorte, une part intégrante du campus. Signée en 2023, la convention de jumelage quartier de Villejean-Rennes 2 ne fait que manifester cet ancrage territorial ancien et une émulation qui, nous l'espérons, ne pourra que se bonifier au fil des ans. Elle a permis de rendre visible et de concrétiser de nombreux projets dans le champ de l'action culturelle, dans le champ de la recherche, dans le champ de l'enseignement. Alors je ne vais pas dresser ici la liste exhaustive, ça n'aura aucun intérêt, mais je me permets de relayer quelques éléments exemplaires, principalement portés par le service culturel de l'université, en lien avec des personnels de Rennes 2 et diverses actrices et acteurs du quartier. La relation avec l'association Rencontres et Culture, qui gère notamment la maison de quartier Villejean, au croisement des publics et des propositions artistiques, il s'agit d'encourager les rencontres autour des expositions notamment qui ont lieu sur le campus. Au cœur des enjeux réside notamment la cartographie sensible du quartier, qui est menée par l'agence sensible en lien direct avec les habitantes et les habitants, dont un point d'étape s'est concrétisé il y a quelques mois via l'exposition Va créer, relative à l'engagement étudiant. De son côté, le dispositif Métisséo Observation favorise les rencontres avec les acteurs du quartier et se concrétisera par une sortie de résidence sur la semaine du 4 au 12 novembre prochain. en lien avec le spectacle libre. Mélodie Mo, slameuse, artiste, a proposé un atelier de slam à l'ESS Cargo pour la Mafia, un atelier en mixité choisie qui vise l'empuissancement des femmes du quartier Villejean, étudiantes et ou habitantes. 5 femmes ont réalisé des portraits de femmes puissantes et ces portraits ont été diffusés en amont de la représentation de Libre le 19 novembre. Et tout récemment, c'est actuel même, l'accueil au tambour du 30 avril au 31 mai de l'exposition Le Matin, les champs de fleurs et la lune émotive sont les affiches que vous avez dans le hall qui donnent sur l'extérieur, donnent à voir des œuvres réalisées avec les enfants de l'école Jean Moulin en partenariat avec la Criée Centre d'art contemporain et les artistes Gabriel Manglou, Lucie Ferrezou et Margot Janisset. Le vernissage était la semaine dernière à l'école à côté et là on voit aussi ces moments de rencontre qui sont vraiment des moments qui donnent du sens aussi aux actions culturelles qui sont faites à la croisée de l'université, du quartier et aussi d'autres partenaires rennais. Enfin, du 18 au 20 juin, dans le hall du Tambour en Corse, tiendra une exposition qui est conduite par 7 étudiants du Master 1 Communication publique et politique, dont l'objectif est de valoriser le quartier de Villejean. 11 photographies d'habitantes et commerçantes du quartier, accompagnées de paroles de ces derniers, en lien avec la photographe Anne-Cécile Estève et le congrès des sciences de l'Infocom, qui se tiendra à Rennes de cette année aux mêmes dates, donnera lieu à une exposition le 5 juin lors d'un événement qui est organisé sur la dalle Kennedy. Donc voilà, très léger florilège, mais c'était pour vous dire que je crois qu'une interaction bienvenue ici entre Icar et Rennes 2. Et donc je redis mes remerciements à Samy Zegnani et toute l'équipe de Praxis et plus largement d'Icar. Et puis mes remerciements aussi au service culturel, toujours à la pointe sur ces questions-là, et au CREA qui nous accueille ici au Tambour à la régie. Je vous souhaite une belle journée.
On m'entend, oui. Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Solveig Serre, je suis directrice de recherche au CNRS et j'ai la joie de m'occuper depuis 2022 de ce programme ICAR dans lequel s'insère le projet Praxis qui nous reçoit aujourd'hui. Et donc je vais juste un peu faire quelques éléments de contexte pour que vous compreniez où est-ce que vous êtes en fait. Alors, ça commence par une belle histoire. Donc, il était une fois, Emmanuel Macron, en 2021, décida de réindustrialiser la France. Et pour ça, il fit une grosse vingtaine de stratégies nationales d'accélération industrielle qui concernaient tous les domaines stratégiques majeurs. Donc, vous avez cybersécurité, quantique, 5G. Et au milieu, au titre de l'industrie, il y a une stratégie industrie culturelle et créative, qui est doté donc de 400 millions d'euros et qui est constitué de tout un tas d'appels que vous avez peut-être vu passer, les acteurs culturels connaissent bien, pôle territorial, industrie culturelle et créative, grande fabrique de l'image, etc. Toutes ces stratégies, voulues par le président de la République, ont un volet recherche qui s'appelait, alors on a changé de nom plein de fois, qui s'appelait PEPR pour Programme et Équipement Prioritaire de Recherche et que maintenant on appelle Programme de Recherche. Donc vous avez autant de PEPR que de stratégies d'accélération. Donc forcément, ICAR, c'est le volet recherche de la stratégie d'accélération industrie culturelle et créative. C'est un peu particulier comme type de financement de la recherche, j'y reviens parce qu'en réalité, c'est l'État qui confie à l'organisme de recherche qu'il juge le plus compétent pour l'opérer une mission. Donc on n'a pas vraiment l'habitude de travailler comme ça, les communautés. D'habitude, on a la liberté de travailler sur nos objets, etc. Là, c'est l'État qui donc a décidé que c'est le CNRS qui était le plus apte à porter ce projet. Et la mission, je reviendrai sur la slide, ah ben non, elle n'y est plus. Donc voilà, la mission, c'est de mettre la recherche en sciences humaines et sociales et en sciences informatiques au service des acteurs culturels et créatifs pour les accompagner dans leur transformation et adaptation aux enjeux économiques, sociaux, symboliques, tout ce qu'on veut de demain. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que les professionnels fassent remonter leurs besoins et que quand il y a une question de recherche, la recherche puisse s'en emparer. C'est vraiment cette démarche-là de co-construction, de coproduction et de co-valorisation. Alors sur les aspects techniques, je vais aller très vite parce que c'est pas forcément intéressant. Donc le porteur, c'est le CNRS. La cible, c'est tous les enseignants-chercheurs et chercheurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et des écoles d'art du ministère de la Culture, parce que la stratégie, elle a aussi été beaucoup élaborée au ministère de la Culture. et évidemment les acteurs culturels et créatifs en vertu de la lettre de mission. Alors on est deux à gérer ce programme. Moi je suis là pour le côté sciences humaines et sociales et mon homologue David Coeur-Joly est là pour tout ce qui est sciences informatiques. Le montant du programme, il est de 25 millions d'euros. On en a 20 gravés dans le marbre et 5 millions en attente parce qu'il y a eu pas mal de réarbitrage budgétaire, comme vous savez. Et la durée, elle est de 6 ans. Alors le début, ça a été très long. La lettre de mission est arrivée au CNRS en mars 22 et on a été contractualisé en mars 24 et on a pu vraiment commencer en septembre 24. Donc c'est un projet qui est tout neuf en réalité, même si on a l'impression qu'il a 3 ans. Alors, comment il marche? Et là, on arrive après au projet de Sandra. Donc, le programme, il est composé de 7 projets. Celui-là, c'est le plus structurant, on va dire. C'est celui qui rassemble le plus de communautés. Et celui-là est structuré par grands... Alors, vous m'excusez parce que j'aime pas ces termes-là, mais c'est ceux du ministère, secteur industriel. Je sais bien que tous les acteurs se reconnaissent pas dans cette terminologie, mais c'est celle qu'on est censé employer. Donc, il y a art visuel, audiovisuel, design et architecture, édition, jeux vidéo, métiers d'art et de mode, musée patrimoine, musique, spectacle vivant, et on a osé ajouter un secteur qui n'existait pas, qui est art de vivre, composé de gastronomie, œnologie, hospitalité et certains aspects du luxe. Voilà. On a un réseau de 1500 chercheurs qu'on est allé chercher patiemment sur le territoire. On a construit une cartographie pendant un an et demi. Et ces chercheurs travaillent donc par secteur au prisme de leur thématique de recherche et avec les professionnels. Donc ça, c'est vraiment le gros réseau. À la tête de chacun des secteurs, on a mis en responsabilité un chercheur en SHS, un chercheur en informatique et plusieurs professionnels qui sont spécialistes du secteur en question et qui constituent vraiment le point d'entrée pour les collègues qui voudraient organiser des journées, etc. À côté de ce gros projet, il y a 6 autres projets qui, eux, ne sont pas par secteur, mais par thématique. Et la plupart, mais pas celle de Sandra, correspondant à des questions posées par la stratégie d'accélération industrie culturelle et créative. Donc le premier, c'est créer, diffuser et produire à l'heure de l'IA et des technologies immersives. Ça, évidemment, c'était une commande claire de l'État. Le deuxième, c'est toucher les publics, qui est porté, alors j'y reviens jusqu'à Di Battiste, à l'UNS Saclay, où il y a une scène de recherche, donc c'était important pour nous aussi d'avoir un terrain d'expérimentation à ciel ouvert, et qui plus est en lien avec un gros campus qui est Saclay. Surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience, ce praxique, et donc le projet de Sandra. Alternatives culturelles et créatives, des DAL. Et 2 projets métavers. Alors la terminologie aussi est périmée, mais parce que le document de cadrage, ça a tellement traîné qu'on a été obligé de garder métavers. C'est plutôt aussi IA et technologie immersive. Le premier étant plutôt sur tout ce qui est économique et juridique, et le deuxième étant plus technologique, en lien avec des plateformes de haute technologie qu'on a dans l'enseignement supérieur et la recherche. J'ai oublié de dire... Alors oui, nos missions... principal, c'est considérant qu'en réalité, personne ne dialogue dans l'écosystème. Alors, les chercheurs en sciences humaines et sociales et en informatique se parlent très peu. Les chercheurs et les professionnels se parlent aussi très peu. Donc, on a décidé avec David de considérer qu'on aurait réussi le programme si, au bout de 6 ans, on avait réussi à créer les conditions d'un dialogue et d'une rencontre entre les communautés professionnelles et les communautés de chercheurs. Et pour y arriver, on a vu un seul moyen, c'est la rencontre. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, la rencontre entre toutes ces personnes qu'on était censé mobiliser. L'idée étant qu'on se rencontre pendant des journées, donc on a prévu 60 journées par an, donc c'est beaucoup, mais ça permet justement de favoriser les liens. Et derrière, quand il y a des questions de recherche qui émergent, on les finance via les dispositifs du programme. Donc nos missions, c'est de constituer un espace de rencontre et de dialogue entre les communautés de recherche et les communautés professionnelles, de favoriser les synergies grâce à une plateforme qu'on a mise en ligne en début d'année, je vais y revenir brièvement, et en permanence se poser la question de comment on fait pour faire de la recherche avec et pour les industries culturelles et créatives, ce qui est loin d'être évident parce qu'on sait très bien que la co-construction, c'est jamais facile. Hein. Souvent, il y a un chercheur qui impose ou un professionnel qui impose, et il faut arriver en réalité à négocier que ça ne soit pas tout à fait comme ça. Alors, donc, nos actions principales, c'est ce que je disais, c'est l'animation des communautés au moyen de ce qu'on appelle donc des journées d'accélération. avec un peu d'humour, hein, parce que comme c'est une stratégie d'accélération, voilà, on réfléchit aussi à décélérer dans ce genre de programme. Donc 60 par an, elles sont toutes restituées sur le site internet et elles sont toutes captées, donc vous pouvez réécouter, écouter, etc. L'idée, c'est aussi de faire de la ressource. Un appel à petits projets, alors c'est des petits projets à 20 000 euros, j'invite vraiment tout le monde à déposer. La seule condition du projet, c'est qu'il faut qu'il y ait une question de recherche en lien avec une question qui intéresse un professionnel. Alors, par professionnel, ça va, pour la musique que je connais un peu, du guitariste tout seul à la major universale. Donc, association, enfin, ça peut être absolument tout le monde qui a un rapport avec l'écosystème culturel et créatif. C'est au fil de l'eau, et nous, on évalue deux fois par an, au printemps et à l'automne. Et il y a les premiers lauréats qu'on a évalués en mars. Vous regarderez sur le site, c'était hyper riche et hyper divers ce qu'on a financé. On a aussi de l'appel à accompagnement doctoral. Donc là, il s'agit d'environner des gens qui sont inscrits en thèse, pas chez nous ailleurs, mais dont les thématiques correspondent au programme et qu'on accompagne en leur payant des missions. Enfin, c'est assez précieux. En réalité, c'est du 10 000 euros, donc pour un doctorant, c'est beaucoup. Et on a quelques contrats doctoraux. On en a 10. Là, on en a positionné 5 pour l'instant. Voilà, le seul critère, c'est vraiment l'adéquation avec ce que nous a demandé l'État, parce que nous, on doit rendre des comptes et on peut pas rendre des comptes sur n'importe quoi. Et le fameux appel à manifestation d'intérêt qui est dans les tuyaux et dont on n'arrive pas à savoir s'il va sortir ou pas. Nous, on aimerait beaucoup qu'il sorte parce que c'est du 5 millions dont on voulait que les communautés s'emparent. On avait tout structuré par le haut. On espérait que maintenant, ça allait faire remonter. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Ben voilà, Sandra, je te laisse peut-être la parole maintenant pour présenter un peu plus ce Praxi.
Merci beaucoup. Je crois que je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voulais parler de Praxi et je suis vraiment très reconnaissante aux organisateurs de cette journée et bien sûr à Solveig, donc Solveig Serre, qui dirige et qui a lancé ce programme sur les industries culturelles. Je crois que c'est vraiment... Tu l'as présenté de façon assez modeste et descriptive, mais je voudrais dire à quel point c'est un programme qui transforme le paysage de la recherche, de la culture, qui a commencé à le faire déjà depuis peut-être 22, mais en tout cas depuis le lancement en 2024. Je suis aussi vraiment reconnaissante aux porteurs d'ICAR d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance pour ce projet Praxi, qui effectivement a une thématique sur la démocratisation, la résilience, surmonter les crises, qui n'était pas complètement centrale au départ et qu'il a fallu, je sais, se battre pour l'imposer, mais qui pour moi est vraiment emblématique de l'ambition politique sociale et morale aussi du PEPR, puisque ICAR, de toute façon, comme le montre l'intégration du mot care dans l'intitulé, vise vraiment aussi à prendre soin des sociétés, de leurs acteurs par la culture, par la culture populaire, par les industries culturelles. Et ICAR vise vraiment à améliorer aussi le bien-être et la résilience des sociétés. Et c'était vraiment, dès le départ, l'ambition de Eupraxi, puisqu'il fallait trouver des noms de demi-dieux pour emblématiser ces programmes. Et Eupraxi, comme tu le rappelais, c'est peut-être aussi le seul des projets ciblés qui couvre l'ensemble, en fait, des domaines, que ce soit l'audiovisuel, la musique, les jeux vidéo, etc. Donc ça couvre vraiment l'ensemble de ces domaines, et c'est aussi le cadre de cette journée, puisque même les arts de vivre sont extrêmement représentés aujourd'hui dans l'accueil qui nous est fait. Et donc cette journée Praxi, pour moi, est une étape extrêmement importante. D'ailleurs, on retrouve plusieurs personnes qui étaient présente dans le lancement même de Praxi, hein, donc il y a quelques mois à Paris, hein, à Césure. Hein, et c'est vraiment tout à fait emblématique de l'ambition de Praxi de vraiment transformer la société, la vie, non seulement donc par la circulation et le développement des industries culturelles, mais aussi par la démocratisation, le partage non seulement des contenus, mais aussi de la création en tant que telle. Alors ça paraît une ambition énorme, mais c'est une ambition vraiment réaliste, hein, puisque c'est vraiment ce qu'ont commencé à faire les organisateurs, hein, donc Samy et Ulysse, que je remercie énormément, parce que ça a été beaucoup, beaucoup de travail d'organiser cette journée, mais je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui pour cette journée et tous les intervenants là, qui vont, les participants qu'on va entendre, hein, parce que c'est vraiment des personnes qui prouvent en fait pour moi l'intérêt de ces grandes structures bureaucratiques que sont les PEPR et ces gros financements, hein. Je crois que c'est vraiment formidable puisqu'on a vraiment un ensemble de personnes qui vont montrer aussi comment les industries culturelles transforment le monde, c'est-à-dire ont déjà changé leur propre vie, hein, puisque toutes les personnes aujourd'hui vont montrer comment voilà, la musique, le cinéma, la danse, les séries ont changé leur vie, mais aussi comment, en fait, ils ont eux-mêmes transformé la création pour le bien-être collectif et le partage de la culture, mais comme vraiment, comme le disait le vice-président, pour l'empuissancement, hein, puisque c'est vrai qu'on essaye de ne pas employer le mot empowerment, mais c'est vraiment cette capacité d'empuissancement des citoyens, des personnes, des artistes, donc par ce partage de la culture et surtout des voies de démocratisation de la création elle-même. Je reprends l'intitulé puisque c'est vraiment quelque chose à quoi donc Samy Tegnani a beaucoup travaillé lui-même, hein, c'est-à-dire pas seulement la démocratisation de la diffusion, qui est quelque chose à quoi on a beaucoup réfléchi depuis longtemps, mais aussi la démocratisation de la création elle-même par cette action dans les quartiers et par les personnes dans les quartiers. Donc voilà, c'était vraiment pour exprimer ma reconnaissance à celles et ceux qui rendent cette journée possible, hein, et à quel point cette journée est vraiment tout à fait centrale pour moi. D'ailleurs, c'est la première journée d'accélération de Praxi. Je remercie aussi toute l'équipe de Praxi là, qui est avec moi, et bien sûr toute l'équipe d'ICAR, hein, qui, comme toujours, est extrêmement, extrêmement présente. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Et surtout, donc, je remercie à Samy et Ulysse, et je vais les laisser. Enfin, c'est Samy qui va s'exprimer, voilà, parce que c'est vraiment les personnes les plus appropriées pour défendre le combat finalement on va illustrer ici. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Donc on est vraiment très très heureux de vous accueillir ici au Tambour pour cette journée d'accélération Praxi, donc consacrée au lien entre industrie culturelle et quartier populaire sous l'angle de la démocratisation de la créativité. Donc le choix du Tambour comme lieu d'accueil est symbolique. C'est à la fois un lieu culturel majeur à Rennes et qui est aussi situé au cœur du quartier populaire de Villejean, et donc une salle qui est mise à disposition par l'université de Rennes 2. Donc cette salle incarne parfaitement la rencontre entre trois mondes que nous voulons faire dialoguer aujourd'hui, la recherche, l'art et les quartiers populaires. Donc nos remerciements vont naturellement à l'Université de Rennes 2 pour son accueil, en particulier pour les vice-présidents à la recherche et à la culture, Jérôme Hénaud et Baptiste Brun, ainsi que Gaël Mélikian, directeur du CREA. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Sandra Logier, directrice du projet Praxi, pour sa confiance et son engagement, ainsi que Solveig Serre, directrice du programme national de recherche PEPR-ICAR, pour son soutien tout au long du processus. Et je remercie donc plus largement toute l'équipe d'ICAR et de Praxi pour nous avoir aidés à monter cette journée. Donc cette journée a été pensée à deux voix, avec Ulysse Rabaté à mes côtés, dans un temps court, mais avec une exigence partagée de cohérence et d'ouverture. Et je tiens à le remercier très chaleureusement pour ce travail. Un immense merci enfin à toutes et tous les intervenants de cette journée. Ils sont 21. Bon, et donc je ne vais pas pouvoir tous les citer ici, mais et ils ne sont pas tous là encore à cette heure-ci, c'est un peu tôt. Parmi eux, on compte des artistes du mouvement hip-hop, des metteurs en scène, des réalisateurs, des éditeurs ou encore des responsables associatifs dans le secteur de la culture. Cette diversité témoigne de la vitalité des cultures populaires et des échanges à venir. Je salue en particulier Solo, pionnier du hip-hop français, dont la présence donne une portée toute particulière à cette journée. Quelques mots sur la genèse de cet événement. Lors de la journée de lancement de Praxi fin 2024, donc portée par Sandra Logier, à laquelle Ulysse Rabaté et moi-même avons participé, la question de la reconnaissance des artistes issus des quartiers populaires a émergé. Alors, je vais prendre un exemple, c'est autour du rap, même si on ne peut pas limiter évidemment les cultures populaires liées donc à ces quartiers au rap, mais il illustre parfaitement le paradoxe que nous souhaitons aborder. En 2019, il représentait 62% des écoutes sur les plateformes de streaming, mais seulement 15% des morceaux diffusés en radio, selon la SACEM. Et encore, dans ces 15%, on parle de musique urbaine, donc c'est plus large encore que le rap. Ces chiffres montrent à la fois la centralité acquise par la culture hip-hop, née dans les quartiers populaires, et la persistance de son invisibilisation dans certains circuits de légitimation culturelle. Les sciences sociales ont aussi leur responsabilité dans cette invisibilisation relative. Malgré l'essor de ce qu'on appelle les hip-hop studies, depuis plus d'une décennie maintenant, la question des origines sociales populaires d'une partie des artistes a été progressivement éludée ou ignorée. Nous ne prétendons pas que ce soit le seul angle pertinent, mais il nous paraît indispensable de questionner cette invisibilisation. L'ancrage social et culturel de la culture hip-hop soulève plus largement la question de la reconnaissance d'une culture d'un rapport au texte, à l'expression et à la prise de parole, qui se construit à partir des parcours et des expériences de vie ancrées dans les quartiers populaires. Cette journée permet d'interroger ce processus encore inachevé, fait de reconnaissance partielle, de déplacement symbolique, mais aussi d'exclusion persistante. Donc je ne vais pas prolonger ces mots d'ouverture, et on va vraiment passer à la présentation des tables rondes, et je vais laisser Ulysse faire une petite présentation.
On va faire très rapide, hein, même si on m'a dit de faire durer l'intro pour que la salle se remplisse. Non, je plaisante. Merci à tout le monde d'être là. Évidemment, la salle va progressivement se remplir et on en est très heureux. On est déjà un tout petit peu en retard sur le programme, et du coup, je vais présenter rapidement les tables rondes, évidemment, en m'associant pleinement au contenu de l'intervention de Samy, que je partage, et je remercie Samy Zegnani pour le travail qu'on a accompli ensemble. Et vraiment, même si je partage beaucoup de ce que tu as dit, je tiens aussi à dire que ce travail sur la reconnaissance des origines sociales, de certaines pratiques populaires, dont tu l'as très bien dit, l'origine, la genèse est parfois effacée, je pense que ton travail a beaucoup contribué ces dernières années, et va continuer à le faire, à ce que justement cette invisibilisation soit contenue. Donc voilà, merci à toi. On va commencer la journée avec une première table ronde qu'on a intitulée, donc évidemment, le titre des tables rondes parfois, peut paraître un petit peu large, mais c'est parce qu'on voulait tout faire rentrer, « Les quartiers populaires et les industries culturelles, entre reconnaissance et tension ». Donc elle sera animée par Emmanuel Parent, qu'on remercie évidemment de son travail en amont et de sa mobilisation aujourd'hui sur cette table ronde. On abordera précisément ces paradoxes que Samy a évoqués, la reconnaissance symbolique d'un côté, et puis une reconnaissance aussi qui est marquée hein, par, comme on l'a dit, une grande diffusion sur certains canaux de diffusion, et en même temps une marginalisation persistante de l'autre côté, et donc évidemment un paradoxe que le rap illustre beaucoup, hein, mais qui ne concerne pas que le rap et qui concerne beaucoup de cultures qui se forment dans les quartiers populaires, hein, c'est-à-dire un côté un peu mode, presque, comme diraient les jeunes aujourd'hui, un peu hype, hein, et en même temps une délégitimation dans certains secteurs de la société qui persiste et qu'il faut continuer d'analyser et de souligner. Après cette table ronde, à 11h, la deuxième sera animée par Emmanuel Carinos, que je remercie également, notamment de sa présence hier à la préparation de cette journée. On s'intéressera plus spécifiquement aux séries et au cinéma. Comme espace dynamique de circulation des cultures populaires, c'était important pour nous, Samy l'a dit, même si le rap va entre guillemets planer encore plus avec Solo sur la journée, mais on avait envie de travailler aussi d'autres secteurs des cultures populaires, et on sait que les séries et le cinéma constituent aujourd'hui des objets de discussion, de contestation hein, de l'ordre social, et qu'il y a un usage particulier de ces cultures populaires-là, dans les quartiers populaires, et qu'on a eu envie de travailler et d'exposer. On fera à 12h30 un petit premier intermède artistique hein, avec nos deux artistes rennais, avec deux artistes rennais qu'on remercie et qui ont été mobilisés notamment par l'association 808 Bloom, qu'on remercie énormément hein, pour la contribution à cette journée. C'est une fierté pour nous d'avoir des acteurs culturels locaux qui sont capables de s'approprier une journée comme celle-ci et lui donner la tonalité qu'on souhaitait, avec des artistes issus des quartiers populaires rennais qui peut-être n'ont pas forcément la place qu'ils méritent dans la vie culturelle quotidienne à Rennes. Et donc voilà, merci beaucoup à 808 Bloom. Je tiens à remercier aussi l'association Avenir, qui est une association rennaise qui s'occupera du repas qui remplira vos estomacs, qui à mon avis commenceront à gargouiller hein, pendant le concert. Donc voilà, c'était aussi important pour nous de faire travailler des associations et des acteurs locaux sur cette journée. Donc après cette pause, la troisième table ronde qui sera animée par Baptiste Pilot, que je remercie également pour sa mobilisation aussi depuis le début, hein, depuis les débuts de Praxi. Et donc dans le cadre de cette journée, c'était au regard de la localisation de la journée, c'était tout à fait logique qu'ils prennent part à cette journée. Cette table ronde s'intitule « Écriture et récit ». Créativité et expérience en quartier populaire. Donc, c'est une table ronde qui nous tenait beaucoup à cœur, hein, évidemment, avec tout ce travail autour de la littérature et de l'écriture, en rappelant hein, que, notamment quand on parle de rap, faut jamais l'oublier, on parle de jeunes gens qui écrivent, d'accord ? Et on dit souvent, hein, quand on expose nos travaux avec Samy, qu'on oublie un peu trop rapidement, vu la pratique du rap aujourd'hui, qu'en fait, les quartiers populaires sont des lieux où on écrit énormément. Voilà, et peut-être des espaces de la société où on écrit plus que dans d'autres. Voilà, donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour nous à souligner. Avec évidemment, avec la présence de Solo, une réflexion aussi sur la question biographique et autobiographique qui prend une place importante hein, aujourd'hui, notamment quand on regarde les ouvrages qui sortent et dont les rappeurs sont signés par des rappeurs. La quatrième table ronde, donc la dernière, hein, sera animée par Louis Jésus. Elle portera sur les dynamiques intergénérationnelles dans les quartiers populaires, en s'attachant à la transmission des savoirs et des valeurs qui sont liées aux pratiques artistiques, ainsi qu'aux manières dont les rapports de genre traversent ces processus. On terminera la journée avec un concert hein, de nos artistes. Une conclusion, pardon. Il y aura une conclusion, oui, c'est vrai qu'en plus, c'est le seul moment où on parle de la journée, donc tu as raison quand même de... non, je plaisante. Non, mais oui, donc il y aura une conclusion qui sera faite notamment par Solo, hein, qui est déjà sur une table ronde, mais à qui on a demandé de conclure la journée avec nous, et je pense que c'était important aussi pour nous. Et après cette conclusion, on aura donc un concert avec nos artistes rennais, un concert coordonné, comme on l'a dit, par 808 Bloom. Donc on vous remercie hein, de remplir progressivement la salle, ça y est, là c'est bon, je pense qu'on a fait durer assez. Voilà, un dernier mot pour dire qu'évidemment on est très heureux, très fiers et assez émus même d'avoir... toutes ces personnes dans une journée académique comme celle-ci. Voilà, et on espère évidemment que ça va être porteur de projets pour Icare et pour Praxi, mais évidemment aussi peut-être de projets entre vous et de collaboration dans les temps et les années qui viennent. Donc merci à toutes et tous d'être là, et puis je pense qu'on peut démarrer avec la première table ronde.